Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission tous les derniers lundis de chaque mois sur Fréquence Mistral 99.3. Cette émission de 16h30 à 17h30 s'appelle « Pour la dignité » et vous aurez des informations sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Voilà.
Et on retrouve Régis Coulanges pour l'émission « Pour la dignité » sur Fréquence Mistral avec son invité Marie-Dominique Blanc.
Donc je vais vous dire un petit peu le sommaire. Donc on va parler des activités de la région. Ensuite, Marie-Dominique est venue se joindre à nous pour cette émission « Pour la dignité ». Nous sommes contents de l'accueillir et Marie-Dominique va nous dire un petit peu son parcours à Amnesty et ce qu'elle fait dans sa fonction d'animatrice du groupe. Ensuite, on va parler du travail d'une chercheuse d'Amnesty, Donatella Rovera. Hein. Vous savez que la recherche à Amnesty, c'est fondamental, hein, puisque toutes nos actions partent de la recherche. Ensuite, Marie-Dominique nous parlera de la situation en Érythrée, hein, qui est considérée un peu comme la Corée du Nord de l'Afrique. Et puis, un sujet important, hein, la libération qu'on demande de Meriam Yehya Ibrahim, qui est une jeune Soudanaise. Et puis, on finira par l'interview de Jean-François Dubost, qui est chargé de mission réfugiés et migrants à Amnesty International France et qui parlera justement de la situation des migrants aux portes de l'Europe. Voilà pour le programme. Alors peut-être qu'on va commencer par de la musique.
Assis au bord du temps, à la lisière du monde, je regarde passer les gens qui défilent à la ronde. Je regarde passer la vie, j'ai l'humeur vagabonde. Et je pleure et je ris de seconde en seconde. Et là, bien loin de moi, c'est fou ce que je vois. D'abord je vois tout ce qu'on sait depuis des millénaires. On chante dans les palais, on pleure dans les chaumières. Dans les palais, on mange du caviar à la louche. Dans les chaumières, on s'en paie juste l'eau à la bouche. Je vois des escrocs qu'on accueille partout comme des stars et des pauvres cantos pour un loyer en retard. Tout au fond d'une impasse, un jeune qui agonise, le dealer lui spray la sangon dans la Venise. Oh monde, monde, ne m'en veux pas, mais je me sens mieux loin de toi. Oh monde, monde, excuse-moi, mais je ne comprends plus tes lois. Assis au bord du temps, je regarde le monde. Il est triste ou marrant de seconde en seconde. Au bout de ma lorgnette, j'en vois toutes les couleurs. Je vois des choses un peu bêtes et d'autres qui font peur. Je vois des pays où l'homme fait des folies de son corps. Mais la femme adultère est lapidée à mort. Imaginez que chez nous on impose la vertu, qu'on ne puisse même plus rire de nos histoires de cocu. Je me vois sous la pluie, abandonné, trempé, courant vers un taxi qui me file sous le nez. Non seulement ma belle m'avait posé un lapin, mais je la vois passer dans la Rolls un rupin. Oh mon amour, ne m'en veux pas, mais je me sens mieux loin de toi. Oh monde, monde, excuse-moi, mais je ne comprends plus tes lois. Assis au bord du temps, je me tiens loin du monde. Et pourtant, je l'entends, la violence. princes qui grondent. Je vois des malins qui se battent à la sortie des stades et des petites vieilles qu'on agresse pendant leur promenade. Je vois une épouse qui, comme chaque soir, se prend un bain. Son mari s'est saoulé, n'a pas trouvé de turbin. Je vois des nations qui se tapent dessus depuis toujours, mais elles n'ont pas de pétrole, alors Tintin les secours. Je vois des fous qui prient avant de tout faire sauter, des gosses qui à coups de pierre veulent chasser des blindés. Je vois le général entouré de sa cour qui explique au journal cette petite guerre du jour. Je vois le petit soldat dans le froid, dans la boue, qui ne comprend toujours pas où mène ce jeu de fou. Oh monde, monde, ne m'en veux pas, mais je me sens mieux loin de toi. Oh monde, monde, excuse-moi, mais je ne comprends plus tes lois. Oh monde, monde, ne m'en veux pas, mais je me sens mieux loin de toi. Oh monde, monde, excuse-moi, mais je ne comprends plus tes lois.
Régis Coulanges pour l'émission Pour la Dignité sur Fréquence Mistral avec son invité Marie-Dominique Blanc.
Voilà, alors les nouvelles de la région et de nos activités. Alors très bientôt, la mercredi 4 juin, le groupe dinois d'Amnesty sera à la médiathèque intercommunale à Digne-les-Bains pour participer aux 18e rencontres autour de la littérature jeunesse. Alors le thème cette année, c'est des nouvelles d'ailleurs. Et la journée, donc ce sera un mercredi, hein. La journée se déroulera ainsi. Il y aura des expositions à la médiathèque, notamment les livres qui ont été réalisés par les enfants des écoles. Et ainsi que par une école du Burkina Faso, dans le cadre de la campagne « Pas d'éducation, pas d'avenir ». Il y aura une exposition sur les papiers découpés de Fabrice Mondéjar, qui est un des auteurs invités par les rencontres. Il y aura en exposition les planches originales de la BD Monsieur le Prof et du manuscrit au livre, une exposition d'Isalou Édition. Voilà, alors nous allons participer. De deux manières différentes. On aura donc un atelier pour les enfants sur ce qu'on fait en général, c'est-à-dire leur faire découvrir la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est notre document fondateur et que peu, finalement, qu'on ne connaît pas assez. Alors, à partir d'albums que nous coéditons avec des auteurs, à partir d'affiches, de contes, voilà. Donc, un atelier pour les enfants. Et puis aussi, donc, nous présenterons tous ces albums que nous publions et qui parlent, bien sûr, des droits humains et qui s'adressent aux enfants de la maternelle jusqu'au collège ou même lycée, puisqu'on a des livres et des albums pour adolescents, grands adolescents. Voilà, donc on présentera tous ces livres qui seront aussi à la vente, hein, si des gens veulent venir les acheter. Beaucoup d'albums, en fait, pour le maternel et primaire. Très beaux albums, et puis qui parlent de tolérance, qui parlent des enfants un peu du monde, hein, de leurs conditions de vie. Voilà, et sur la liberté, bien sûr, tout le programme d'Amnesty International. Bon, alors, il y aura... il y aura la veille, attendez un petit peu que je me retrouve. Voilà, le mardi 3 juin à 17h30, il y aura l'inauguration à la médiathèque de ces rencontres. À 18h30, il y aura une conférence sur une littérature pour l'Europe par le professeur Alexis Nuzelovici. Et à 21h, au Centre culturel René Char, les rencontres vont passer le film L'Escale, qui est un film documentaire qui est soutenu par Amnesty, hein, et qui parle de ces personnes qui fuient la guerre, qui fuient la misère et qui veulent rejoindre l'Europe et qui se retrouvent en escale en Grèce. Voilà, c'est un très beau film, passionnant, poignant, avec beaucoup d'émotion. Et voilà, donc c'est à 21h au Centre René Char. Donc c'est en ouverture, si vous voulez, des rencontres de littérature jeunesse. Et puis ensuite, le mercredi 4 juin, de 10h à 18h, à la médiathèque, il y aura la rencontre avec les auteurs qui ont été invités et qui sont allés dans les classes rencontrer les écoles participant aux rencontres. Et puis, il y aura donc les dédicaces de ces auteurs et puis des ateliers. Il y a Amnesty International. Et puis, il y a aussi d'autres associations comme Lire et Faire Lire, le CDDP. Il y aura les éditions Isalou. Voilà. Et donc, à 15h, il y aura des contes et ombres chinoises par Fabrice Mondéjar. C'est pour les enfants à partir de 5 ans. Et à 18h, des contes croisés, contes d'Europe et musique, par la conteuse Fatia Sadek. Voilà donc le programme de ces deux jours, finalement. Et nous sommes, comme chaque année, nous sommes très heureux de participer, parce que c'est important de parler des droits humains aux enfants de notre région. Voilà. Voilà pour ce Salon du Livre Jeunesse. Ensuite, le samedi 14 juin, alors là, c'est un peu plus au niveau régional, il y a une rencontre assez exceptionnelle à Aix-en-Provence. Donc, le samedi 14 juin à 10h au cinéma Le Mazarin, présenté par Amnesty International en partenariat avec les rencontres Henri Langlois. Il y a la projection de 5 courts-métrages réalisés par des jeunes réalisateurs israéliens et palestiniens sur le thème de l'eau, primé par Amnesty International France lors des dernières rencontres, initiatrice du projet. Voilà. En présence, voilà, c'est important parce qu'il y aura la présence du président du comité local de Nabi Salé et la maire de Mustapha Tamimi, qui a été tuée lors d'une manifestation en décembre 2011. Alors voilà, ces deux personnes viennent donc du village de Nabi Saé. Et Nabi Saé, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, c'est un village palestinien qui fait partie des 12 cas de notre campagne quand on a fait les 10 jours pour signer. Vous savez, c'est 12 cas que l'on suit toute l'année de violation des droits humains. Donc là, ce n'est pas un cas individuel, c'est en fait tout un village, le village de Nabi Salé, qui est dans les territoires occupés. Ils sont tous dépossédés de leurs droits et ils manifestent justement pour retrouver leurs droits. Et dans ces manifestations, les Israéliens tirent à balles réelles. Il y a déjà eu de nombreux blessés et deux morts, dont... le fils de cette dame qui sera présente là à Aix. Voilà, donc c'est un cas net de violation des droits humains pour un village de 550 habitants où la colonie israélienne a pris la source, en fait, d'eau qui est située sur les terres des villageois. Et donc, voilà, ils sont dépossédés de leur eau et ils subissent humiliation comme beaucoup de ces villages palestiniens. Voilà, il y a 490 000 citoyens israéliens qui vivent actuellement dans les territoires palestiniens occupés. Ces colonies sont une violation du droit international humanitaire et sont considérées comme un crime de guerre. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule que le transfert direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe est considéré comme un crime de guerre lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique. Voilà, donc c'est une politique discriminatoire qu'Amnesty et de nombreuses autres associations dénoncent. Et voilà, donc on continue à soutenir ce village. Et vous aurez donc, je rappelle, à Aix-en-Provence, le samedi 14 juin à 10h, au cinéma Le Mazarin, projection de film et débat avec ces deux invités. Voilà, puis je termine pour les nouvelles des activités de la région. Par le samedi 21 juin, le groupe d'Inois se tiendra sur le boulevard Gassendi pour faire signer les gens, le public, pour des cas de victimes de torture. En effet, là, cette année, nous lançons une nouvelle campagne qui s'appelle Stop Torture. Parce que finalement, bon, la torture, c'est depuis très longtemps qu'Amnesty s'en occupe et écrit pour faire cesser les tortures sur de nombreuses personnes. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a eu un consensus pour supprimer la torture partout dans le monde, mais que c'est remis en question, ne serait-ce que par le fait que énormément de pays continuent à l'utiliser. Puisqu'on a dénombré 141 pays dans toutes les régions du monde qui pratiquent encore cette abomination qui est contraire à tous les textes internationaux, bien sûr. Donc on va faire une campagne mondiale, c'est-à-dire tous les membres d'Amnesty vont travailler contre la torture et on va porter le regard sur certains pays. Alors on aura donc des pétitions sur le Mexique, le Maroc et le Sahara occidental, le Nigeria et l'Ouzbékistan. Voilà, alors au Mexique, le gouvernement affirme que les cas de torture sont exceptionnels, mais en fait, dans la réalité, on sait très bien que la police et les forces de sécurité pratiquent ce type de sévices. Et ce, sans être sanctionné. Donc, quand il n'y a pas de sanction, quand il y a l'impunité, les pratiques continuent et se multiplient. Hein. Donc, il y a en ce moment, d'ailleurs, sur le site d'Amnesty, une pétition que vous pouvez signer en ligne pour Claudia Medina, qui a été torturée par les forces gouvernementales. Et voilà. Alors, donc, c'est des charges électriques, enfin, rouées de coups, etc.
De quel pays ?
Là, c'est au Mexique. Mmh. Et puis, on aura une pétition aussi pour le Maroc et le Sahara occidental. Les autorités enquêtent rarement lorsque des cas de torture sont signalés. Donc, il y a eu quelqu'un qui a été estradé d'Espagne et qui s'est retrouvé au Maroc et qui affirme avoir reçu des décharges électriques et avoir été frappé, suspendu par les poignets. Enfin, je vous passe les détails. Il a été ensuite condamné sur la base de ses aveux. Alors nous,
c'est toujours des aveux
sous la torture. Donc vous savez que sous la torture, on peut avouer n'importe quoi. Donc ça ne devrait pas être retenu par les tribunaux. Et pourtant, c'est retenu et les gens sont condamnés une fois qu'ils ont avoué ce qu'on leur demandait d'avouer. Voilà. Ensuite, on portera un regard aussi sur le Nigeria, hein, dont on parle beaucoup là, où les policiers et les militaires ont couramment recours à la torture. On demandera notamment dans une pétition justice pour Mosé Akatugba, qui a été condamné à mort après des aveux obtenus sous la torture. Donc vous voyez, le même procédé qu'au Maroc. Et puis ensuite en Ouzbékistan aussi, où la torture est très répandue et les tortionnaires sont rarement traduits en justice. Amnesty International n'est pas autorisé à entrer dans ce pays. Ça ne nous empêche pas d'avoir énormément d'informations sur ce qui s'y passe. Et on parlera notamment du cas de Dilorom Abdoukadirova, qui a passé 5 ans en exil après que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur une manifestation à laquelle elle a participé de manière pacifique. À son retour, elle a été arrêtée, empêchée de voir sa famille, inculpée de tentative de renversement du gouvernement. Pendant son procès, elle est apparue émaciée et elle avait des bleus sur le visage. Sa famille est persuadée qu'elle a été torturée. Donc voilà, on demande de faire toute la lumière sur, sur ces présomptions de torture. Et voilà. Donc, on sera donc le samedi 21 juin. On se met sur le boulevard Gassendie, près de la maison de la presse. Et on fera signer ces pétitions contre la torture. Voilà pour les activités de la région. Ensuite, ben voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Dominique Blanc, qui est la présidente du groupe dinois d'Amnesty International. Bonjour Marie-Do.
Bonjour.
Bonjour.
Régis, bonjour Odile. Oui, je suis la présidente. Je suis rentrée à Amnesty en 99. Suite à un long cheminement, j'ai toujours été intéressée par les droits humains, mais de là à rentrer dans une association, il a fallu que ça mûrisse. Et puis, je suis devenue présidente quand Régis est passé conseiller national. Alors, mon travail, c'est un travail un peu administratif que je fais conjointement avec Régis. Et puis, je reçois les dossiers des actions que je redispatche. Alors, on a pas mal de dossiers. On s'occupe de ce qu'on appelle la CPI, la Cour pénale internationale et la justice internationale. On a la commission armes qui est un peu en sommeil depuis que le traité sur le commerce des armes a été adopté. Il n'est pas encore opérationnel puisqu'il manque encore des ratifications, mais je reçois les infos que je fais suivre ou non suivant ce que c'est. On a le dossier torture qui recommence, donc Régis vient de parler. On a un très gros dossier de peine de mort. On focalise pas mal sur la Bélarus qui est le dernier pays d'Europe qui pratique la peine de mort. Les USA où depuis janvier, rien qu'au Texas, il y a eu 7 exécutions. La dernière exécution dans l'Oklahoma a été réalisée à partir d'un mélange de produits jamais utilisés, puisqu'il y a une pénurie de produits pour la mise à mort. Et la durée de la mise à mort a duré 40 minutes. Donc c'est vraiment une grosse torture. L'Iran, on a l'Irak. Donc je reçois pas mal au moins 2 actions par semaine que je redispatche ou sur le groupe ou sur le réseau Action Urgente. Et je pense que là, on va faire dans les mois qui viennent, il y a un gros danger aux Maldives. Le gouvernement des Maldives a de nouveau adopté la peine de mort pour les mineurs âgés d'au moins 7 ans, mettant fin à un moratoire de 60 ans. Donc je pense qu'on aura encore pas mal de travail. Et il y a un nouveau dossier, une nouvelle campagne qui arrive, c'est « Mon corps, mes droits ». Alors, on a eu une campagne femme, mais là, c'est assez différent. C'est « Mon corps, mes droits », c'est-à-dire que c'est une campagne pour mettre fin au contrôle et à la criminalisation des droits sexuels et reproductifs par les agents gouvernementaux et non gouvernementaux, c'est-à-dire le droit à l'avortement. On a vu, nous, même en Europe, où il est remis en question en Espagne. Il y a les mutilations génitales, les mariages précoces. Tout ça va être sous le focus d'Amnesty. On n'a pas encore fait d'action en elle-même, mais ça va venir. Puis on a le dossier personnes en danger qui contient le dossier défenseur des droits humains, dont Nabi Saleh en fait partie là en Palestine. Ça, c'est un dossier récurrent. La campagne Dignité, qui comprend les discriminations de genre, sexe, communauté. Donc, en ce moment, on a les Roms, avec ce qui se passe, avec le discours anti-Rom qu'on a dans toute l'Europe. Il y a des pogroms en Europe de l'Est. Donc, on s'occupe de ça. La campagne « Pas de sécurité sans droit », c'est la campagne sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis les USA en particulier, ont bafoué les droits humains, torture, détention sans procès, lieu de détention secret. Et puis on a les dossiers pays. On a un dossier Fédération de Russie. Alors en ce moment, on a beaucoup d'associations, les ONG en danger. Amnesty a été visitée, entre guillemets, par les forces de sécurité il y a quelques mois. Le droit de manifester, dont les... C'est de Bolotnaya, les manifestants font partie des personnes défendues dans le cadre de personnes en danger. Sur la France et l'Union européenne, on a fait un énorme travail sur la réforme du droit d'asile qui est en train de se faire. Amnesty a été d'ailleurs a eu des entretiens avec les autorités françaises. Nous avons écrit aux députés et aux sénateurs. On a comme pays aussi le Soudan. Alors le Soudan, on en parle peut-être un peu moins maintenant, mais on en a pas beaucoup parlé pour le Darfour, mais maintenant il y a avec le Sud-Soudan, on en reparle. Mais le Soudan pays lui-même, on a au moins une action par mois. Et puis, on a ce qu'on appelle le dossier MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, avec le printemps arabe, où on fait beaucoup d'actions. Voilà. Donc, mon travail consiste, je reçois les courriers, je reçois les circulaires d'action, et je rédige les lettres que j'envoie aux autres membres. Et il est vrai qu'on est deux à ne pas travailler. Les autres ont tous une activité dont elles ont moins le temps de faire les courriers. Donc je fais les lettres, je redispatche aux autres membres.
C'est un travail presque à temps plein que vous faites.
Presque, hein? Oui, ouais. Presque. Et si une lettre unique est demandée au nom du groupe, je la fais et je l'envoie. Donc voilà. Et je m'occupe des actions urgentes. Alors le réseau Action Urgente, c'est la même chose. Je reçois un dossier avec le cas de la personne, l'identité de la personne, son cas, si c'est un prisonnier d'opinion, si c'est un danger d'exécution, une disparition forcée, torture, les destinataires à qui doivent être adressés les courriers. Je rédige la lettre parce que là, je me suis aperçue aussi que dans notre réseau qui comprend à peu près 37 membres, des personnes me disent « on ne les fait pas parce qu'on ne sait pas comment tourner la lettre ». Alors, je fais la lettre et je leur envoie et je choisis un destinataire par membre, c'est-à-dire que s'il y a deux destinataires des courriers, j'envoie un destinataire à 5 personnes et l'autre destinataire à 50 personnes pour ne pas les surcharger de travail. Ce ne sont pas des membres d'Amnesty, ce sont des sympathisants. Et je leur en envoie à peu près 2 par mois. Sauf cas urgence qu'on a fait aux USA, pour les USA il y a depuis quelque temps, c'est que je reçois l'action et l'exécution est tellement imminente qu'il faut qu'on s'y mette tous, et même si on fait des petits courriers par mail, par fax, il faut le faire. Et maintenant on nous demande de le faire aussi, alors c'est beaucoup plus dur, c'est de mettre en place par les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook, mais on n'est pas beaucoup à s'y mettre. Et c'est vrai que quelquefois, ça sert aussi. Voilà, ça, c'est mon travail d'Amnesty que je fais du groupe. Voilà.
Eh bien, sacré travail, Marie-Dominique Blanc. beaucoup, beaucoup pour vous aussi, Régis Coulanges. C'est un investissement énorme, mais nécessaire.
Oui, ça prend. Oui. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Hein. Mais aussi, on fait de belles rencontres. Hein. Mmh. Oui, parce que récemment, j'ai reçu un mail là, d'un de nos amis de Côte d'Ivoire. Et j'étais surpris parce qu'il m'a dit « Ah, je suis content de t'écouter sur la radio une fois par mois. » Parce qu'en fait, bien sûr, ça ne capte pas là-bas, mais par Internet, il peut réécouter...
Sur le site, voilà.
Voilà, et donc, je suis... Voilà, Fréquence Mistral est écoutée en Afrique, en Côte d'Ivoire. Voilà, ça nous a fait...
Par Soro.
Par Naloa Soro, qui est un défenseur des droits humains de Côte d'Ivoire, qui travaille pour la Cour pénale internationale maintenant, et que nous pensons faire venir bientôt en 2015. Voilà. Donc ça, voilà, ça fait plaisir. Alors ce qu'on peut dire aussi par rapport au travail de Marido, c'est que donc elle a 37 personnes qui ne sont pas forcément membres d'Amnesty qui participent au réseau d'action urgente. Donc c'est des personnes qui se sont engagées à faire une ou deux lettres à envoyer, puisque la lettre Marido l'a fait en fait. Mm-hmm. Hein. À imprimer cette lettre et à l'envoyer... rapidement, puisque c'est action urgente, donc dans les quelques jours qui suivent, il faut faire l'action. Et donc, il y a 37 personnes qui ont accepté de nous aider comme ça. Et on peut lancer un appel sur les ondes aux auditeurs. S'il y a des personnes qui veulent rejoindre ce réseau d'action urgente, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à Amnesty. Vous pouvez le faire, bien sûr, c'est toujours mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à Amnesty. Et vous recevrez une ou deux actions par mois, une lettre à imprimer ou à envoyer par mail. C'est très facile et ça porte, puisque Amnesty, son pouvoir, c'est son arme, c'est le stylo. Son pouvoir, c'est justement le fait qu'on soit très nombreux. Hein, je vous rappelle, on est 3 millions de membres, très nombreux dans le monde à écrire pour des personnes qu'on ne connaît pas. Et plus il y a de lettres, plus on a du poids. Donc, si vous êtes intéressé pour cette action, contactez-nous, contactez par la radio. Et venez rejoindre ce réseau d'action urgente, c'est important. Merci beaucoup. Et puis on va maintenant passer un petit morceau de musique, encore Adamo, puisque voilà, j'ai amené son disque.
C'est une bonne raison.
Mon Orient déchiré, mon douloureux Orient, tombe au ciel étoilé, aviré rouge sang. Mon Orient tourmenté, mon souvenir brûlant, hier je t'ai chanté, je te pleure à présent. Car j'étais près de toi l'autre jour à Jénine, quand tu criais pourquoi devant ta maison en ruine. Et mon cœur a saigné un soir à Tel Aviv, quand ta jeunesse a dansé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon Orient déchiré, mon douloureux Orient. Je ne sais plus que dire, je n'y comprends plus rien. As-tu vécu le pire, ou n'est-il que pour demain? Est-il fou d'espérer voir un jour sur ta terre, fils d'Allah et Yahvé, vivre en paix si ce n'est en frère, et quitter la vieille histoire, la maudite spirale, se vider la mémoire des rancœurs ancestrales, et briser ce sortilège qui te vole tes enfants, cet effroyable piège, œil pour œil, dent pour dent. Mon Orient déchiré, mon douloureux Orient. Terrifié, malheureux Proche-Orient, dans ta beauté blessée, tu veux défier le temps, et je te vois meurtri, mon pathétique Orient, j'entends toujours ton cri, je vois ta main qui se tend, mais je ne peux pas grand-chose. Mon impossible Orient, juste plaider ta cause, une prière en passant, pour que les grands du monde se penchent enfin sur tes plaies. La blessure est profonde et plus vive que jamais. Il faudra bien pourtant qu'il y ait un premier pas, le début d'un instant où la haine s'oubliera. Deux enfants qui enfin, ignorant les frontières, effacent main dans la main toutes les années d'enfer. Mon Orient déchiré, mon douloureux Orient. Mon Orient déchiré, mon douloureux Orient. Mon douloureux Orient.
Voilà, c'était Adamo, une magnifique chanson.
Oui, très belle chanson. Hein. Je regrette beaucoup qu'on ne l'entende plus beaucoup, Adamo. Il continue à faire beaucoup de tournées. Hein. Et je trouve qu'il vraiment, il a une voix magnifique, des chansons, une musique superbe. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je sais que sur Digne, il y a des personnes qui l'aiment beaucoup aussi, dont Christiane, à qui je dis bonjour.
Ah ben voilà.
Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner, je vais vous parler de la recherche. Alors vous savez que c'est fondamental à Amnesty, puisque c'est toujours le même procédé. On fait de la recherche, ensuite on sort des documents, et à partir de ces documents, on fait des actions. Voilà. Donc c'est toujours le même procédé. Et donc dans la chronique du mois de mai, là que vous pouvez trouver à la médiathèque, la chronique d'Amnesty, donc c'est notre journal qui paraît une fois par mois. Il y a un article sur une interview de Donatella Rovera. Alors Donatella Rovera, tout le monde à Amnesty la connaît parce que c'est une des chercheuses les plus engagées d'Amnesty. Hein. Elle est allée partout, dans toutes les situations où il y avait des conflits. Hein. En Algérie dans les années 90, dans les territoires palestiniens, au Sud-Soudan, pendant le conflit avec le Nord, au Sud-Liban, en Côte d'Ivoire, en Libye. Et plus récemment, elle est rentrée en Syrie. Sans autorisation, c'était la première fois qu'une chercheuse rentrait sans autorisation parce qu'on ne savait plus trop à qui demander. En Somalie, elle est allée, en Centrafrique, au Sud-Soudan. Et désormais, elle travaille au sein de l'unité de crise qui a été créée en 2010 par le secrétariat international à Londres. Et donc, elle évoque dans un article les difficultés de son travail et les enjeux des crises les plus difficiles du moment. Voilà. Donc... Le premier défi à relever, donc, c'est d'enquêter pour établir les faits. Et c'est très difficile dans les conflits armés en raison des dangers, d'abord, hein, les dangers qu'elle encourt, pour accéder aux sources premières. Et puis, il y a aussi le risque de manipulation par les protagonistes. Les réseaux sociaux, donc, sont une aide. Ça permet de révéler davantage la vérité. Mais il faut traiter ces informations correctement. Vérifier les faits et à défaut ne pas les diffuser. Et bon, on sait très bien que certains journalistes s'empressent quand ils ont une nouvelle, un scoop, là, de le répandre et des fois sans précaution. Donc c'est très difficile, c'est un danger qui est important et Amnesty, on veille vraiment à être sûr des sources que l'on a. Voilà, ensuite, il y a un autre danger, c'est de schématiser les conflits entre bons et mauvais. Donc, Donatella nous dit que dans tous les conflits qu'elle a suivis, elle n'a jamais connu un où il y avait un bon d'un côté, un mauvais de l'autre. Et puis, elle dit qu'en général, en fait, il y a plusieurs mauvais à des degrés divers et à des moments différents qui s'affrontent. Voilà, donc... Amnesty ne peut pas s'en tenir au discours réducteur bon et mauvais et propager une lecture trompeuse car cela a des conséquences. Donc le deuxième rôle de cette unité de crise consiste à fournir à partir d'informations validées une analyse des mécanismes du conflit. Et puis ensuite, une fois qu'on a les informations, qu'on les a vérifiées, qu'on a fait une analyse du conflit... Amnesty cherche à savoir à qui il faut s'adresser. Alors en général, les acteurs du conflit sont réfractaires aux pressions que l'on peut exercer. Donc on va essayer de faire, par exemple, des pressions sur ceux qui vont apporter du soutien financier ou politique. Voilà. Alors, dans l'article, ensuite, on l'interroge sur la situation au Sud-Soudan. Donc, elle nous dit que le conflit qui avait éclaté le 15 décembre entre les forces loyales du président Salva Kiir et les opposants partisans de l'ancien vice-président, destitué au mois de juillet, recoupe en fait le clivage entre deux principales ethnies, du Sud-Soudan, les Dinka et les Nuer, auxquelles s'ajoutent les rivalités politiques et la compétition pour le contrôle des ressources pétrolières. Donc, dans ce conflit, il y a environ 1 million de personnes qui ont été déplacées. 10% de ces réfugiés se sont trouvés dans des bases des Nations Unies, mais 90% sont livrés à elles-mêmes en brousse. Beaucoup sont morts. On compte des morts par milliers. La plupart des victimes sont des civils, souvent de jeunes hommes ou bien des combattants, mais sommairement exécutés. Il n'y a plus beaucoup de preuves matérielles de ces exactions. Hein. Des villages ont été détruits et plusieurs villes ont changé de main plusieurs fois. C'est extrêmement difficile de savoir qui est responsable de quoi. Les partisans des deux camps ont atteint un tel point dans la violence que ce conflit soit compliqué à résoudre, même si les dirigeants parviennent à trouver un accord politique. Voilà donc les recommandations à la suite de cette enquête. Hein. La situation, donc je vous ai dit, la situation humanitaire est catastrophique. Ensuite, il y a la saison des pluies qui arrive plus tôt que prévu et qui va augmenter cette situation catastrophique. Donc, il est impératif de faire pression sur les deux camps afin qu'ils arrêtent de prendre pour cible les civils, les bâtiments civils, et d'entraver aussi le déploiement de l'aide humanitaire. Voilà. Ensuite, elle nous parle de la situation en Centrafrique, où là, c'est une épuration ethnique des musulmans qui est déjà largement accomplie. Ils étaient environ 100 000 à Bangui. Il n'en reste plus qu'une poignée qui se cachent terrorisés. Voilà. Donc, ces civils musulmans sont en train de payer très cher les méfaits de la Séléka. Hein. La Séléka qui a eu le pouvoir un temps et qui s'en est pris aux chrétiens. Et maintenant, c'est l'inverse. Et donc on est dans un système de haine et de vengeance terrible. Alors bien sûr, on a l'impression que ça se calme. En fait, ça se calme parce qu'il n'y a presque plus de musulmans. Hein. Ils ont tous fui parce que ce qui est considéré par Amnesty comme une épuration ethnique. Voilà, c'est un conflit qui est extrêmement violent. Et ce projet d'expulsion des musulmans a été mis en œuvre et pratiquement exécuté, quoi. Voilà, c'est terrible pour ces personnes. Et puis voilà, on lui demandait s'il y avait un espoir de solution en Syrie ou du moins d'améliorer la situation en termes des droits de l'homme. Et bon, dans l'immédiat, elle est quand même assez pessimiste, hein, notamment à cause de la paralysie de la communauté internationale, hein. Alors pour elle, les Européens et les Américains ont commis 3 erreurs. La première était de confondre la situation des droits humains et les enjeux politiques, parce que très vite, ils ont essayé de faire un appel au départ de Bachar al-Assad, sans d'abord tenter d'exercer une pression sur les violations des droits. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est ce qu'on disait, les bons et les méchants, hein. Le piège de la simplification. Hein. Les rebelles ont été présentés comme les sauveurs de la Syrie, alors que c'est loin d'être le cas. Une partie de l'opposition, parfois par naïveté, a ouvert la porte aux combattants étrangers qui ont littéralement volé le mouvement de protestation. Voilà, on a voulu croire à une solution rapide et ça a été la deuxième erreur. Et la troisième erreur, d'après elle, c'est qu'on n'a pas exercé des pressions réelles. Souvenez quand Barack Obama a évoqué la ligne rouge des armes chimiques en août 2012. À ce moment-là, le régime menait une campagne de bombardement indiscriminé. Est-ce que la ligne rouge n'était pas déjà franchie? Est-ce qu'il fallait attendre ces armes chimiques bombarder des civils? Je pense qu'une ligne était franchie, il fallait avoir une réponse là. Donc en fait, ce message des armes chimiques a été interprété par le régime comme une autorisation de continuer de bombarder la population avec toutes sortes d'autres armes que les armes chimiques, mais qui faisaient énormément de victimes civiles. Voilà, donc la situation a pourri un tel niveau, en particulier avec l'émergence de divisions intercommunautaires désormais profondes, qu'elle ne voit pas comment la situation pourrait se débloquer à court terme. Et puis récemment, là, le 22 mai dernier, donc il y a quelques jours, on a assisté au veto de la Russie et de la Chine sur la résolution de l'ONU qui demandait la saisie du procureur de la Cour pénale internationale sur la situation en Syrie. Donc cette lutte contre l'impunité qui est très importante pour Amnesty, parce que c'est en luttant contre l'impunité qu'on luttera contre ces violations des droits humains et ces crimes contre l'humanité. Voilà, mais bon, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à cette résolution qui visait pourtant à protéger les civils. Voilà, donc c'est vraiment regrettable et dans l'immédiat, on est assez pessimiste sur la Syrie. Voilà. Donc vous pouvez retrouver cet article à la médiathèque dans le journal La Chronique du mois de mai. La médiathèque est abonnée par le groupe dinois d'Amnesty à ce journal. Voilà, alors je vais repasser la parole à Marie-Dominique qui va vous parler de la situation d'un petit pays d'Afrique, l'Érythrée.
Merci. Oui, c'est dans la chronique de ce mois-ci, aussi, il y a un article aussi sur l'Érythrée, l'Érythrée sous camisole. Et comme disait Régis tout à l'heure, l'Érythrée est désignée comme la Corée du Nord de l'Afrique. Alors l'Érythrée, c'est un petit pays d'environ 6 millions d'habitants qui est situé au nord de l'Éthiopie et qui s'est séparé de l'Éthiopie d'ailleurs lors d'un référendum en 93. Et il est au bord de la mer Rouge. Et c'est ensuite, il y a eu des conflits récurrents, de petits conflits, jusqu'à ce qu'il y ait eu une guerre en 98-2000 avec l'Éthiopie, bien entendu, et qui a fait 100 000 morts. Alors le président s'appelle M. Afewerki, et il y a une citation de... il aime le dire, ça. « Ceux qui espèrent une démocratie multipartite peuvent aller sur la Lune », ce qui veut tout dire. C'est un petit pays pauvre, mais qui a une très grande importance géostratégique. Il a 1150 km de côte et 350 îles à proximité du point d'entrée et de la sortie de la mer Rouge, donc il peut tout contrôler. Il a un énorme contentieux avec la communauté internationale qu'il accuse le pays, non sans raison, d'appliquer deux poids deux mesures entre elle et l'Éthiopie sur des violations de frontières. Et il est vrai que l'Éthiopie est l'alliée des puissances occidentales dans la guerre contre la terreur, donc on lui pardonne pas mal de choses, notamment quand il y a eu sur la Somalie. Et depuis 2000, il y a eu un durcissement du régime. Alors ce durcissement du régime s'accompagne d'une forme de renoncement à séduire les États-Unis et l'Europe, ce que l'Érythrée faisait avant 2000. Et l'Érythrée se rapproche avec les États mis à l'index, c'est-à-dire le Soudan, la Syrie, la Libye et l'Iran, des pays où il y a un chaos, l'Iran où il y a une dictature, une théocratie, le Soudan où il y a Béchir qui c'est un État totalitaire, ce qui se passe là-bas aussi, c'est très grave. Et on ne peut, comme la Corée du Nord, on ne peut ni entrer ni sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'enquête. Même la première rapporteure spéciale sur la situation des droits humains en Érythrée ne le fait qu'à partir des témoignages des émigrés, des migrants qui ont réussi à sortir de l'Érythrée. Alors la situation pour la population... Déjà, les pouvoirs sont concentrés aux mains du président, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblée, c'est lui qui dirige tout. Le service national est à durée indéfinie. Les lycéens finissent leur scolarité, la dernière année d'études secondaires, dans les camps d'entraînement. C'est des gamins qui ont 15 ans. On est face à une situation d'enfants soldats. Puis dès la sortie du service national, les Érythréens sont obligés de travailler pendant 10 ans pour des entreprises publiques, quasi gratuitement. Pas de projet à long terme, donc ils ne peuvent pas gagner leur vie, ils ne peuvent pas se marier, et souvent c'est sous la férule de l'armée. Et l'économie ne tient que grâce à une puissante diaspora. Et ceux qui n'ont pas de famille à l'étranger n'ont d'autre choix que la fuite ou la misère. C'est un peuple donc corvéable à merci, faisant disparaître l'individu dans la masse par un travail forcé, dit noble, puisque pas rémunéré. La liberté de la presse, bien entendu, n'existe pas. Avec la Corée du Nord et le Turkménistan, ils forment le trio infernal quant à la liberté de la presse et les persécutions des journalistes. Les droits humains sont bafoués tous les jours, pas de liberté, le système pénitentiaire est catastrophique. C'est un système semblable à ce que décrit Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, dans lequel il explique que l'immense prison que sont les camps est en fait un système économique permettant les grands travaux au nord de l'URSS. En Érythrée, il n'y a pas de grands travaux comme se faisait en URSS, mais c'est quand même un système économique. Donc les gens qui meurent en prison, on les remplace par d'autres. Il y a tout un roulement de travailleurs qui font le travail gratuitement pour l'État. Il y a environ 10 000 prisonniers politiques. Alors sur 6 millions d'habitants, c'est pas mal. Alors ce sont sûrement surtout des journalistes, des enseignants, des hommes d'affaires, des dirigeants, c'est-à-dire la partie de la population la mieux instruite, plus à même de critiquer le régime. Les jeunes gens qui se dérobent au service national sont dans la ligne de mire et sont souvent arrêtés et emprisonnés. Et qui dit arrêté dit exécution extrajudiciaire, disparition forcée, torture, arrest et détention abominable. Les actes de torture, on ne va pas les énumérer, mais c'est vrai que c'est terrible. Il y en a une, par exemple, ils appellent ça l'hélicoptère. On attache les jambes, les pieds et les mains dans le dos et on les met sur le sable dans le désert. Et il y a des prisonniers qui sont restés 45 jours comme ça et on ne les détache que pour faire leurs besoins naturels et les faire un petit peu manger. Il y a aussi la torture Jésus-Christ. Bon, je ne fais pas un dessin, c'est une crucifixion. Enfin, etc. Les conditions de détention inhumaines, les prisonniers sont détenus dans des cellules souterraines, dans des conteneurs métalliques, souvent installés en plein désert. C'est-à-dire, la nuit, ils ont froid, ils souffrent du froid extrême, et le jour, c'est une chaleur intenable. Et ils sont nourris un minimum, ils meurent de soif, enfin, beaucoup de choses. Et la population n'est pas à même de se révolter, puisque moins de 4% de la population est connectée, avec une pénétration d'Internet l'un des plus bas du monde. C'est-à-dire, les gens ne peut pas y avoir d'éducation citoyenne pour que les gens se révoltent. Et comme ils sont dans la misère, ils subissent, à part quelques-uns qui tentent, beaucoup même, qui tentent l'émigration. Mais il n'y a pas de possibilité de renverser le régime pour le moment. Ceux qui ont accès à Internet et qui ont le téléphone, bien sûr, sont surveillés. Donc, ça finit par des arrestations. Il n'y a pas de liberté de religion. Alors, il y a 4 églises permises. L'église chrétienne orthodoxe érythréenne, catholique, luthérienne et islam. Les membres d'autres groupes religieux sont persécutés. Les témoins de Jéhovah sont en ce moment en prison. Comme je répète, quand on dit prison, ça passe par la torture. Et le gros... La situation catastrophique de l'Érythrée entraîne des réfugiés, des demandeurs d'asile, une émigration telle qu'il y a à peu près 4000 migrants par mois qui tentent le coup. Certains fuient dans des conditions exceptionnelles. On se rappelle de Gebre Selassie aux Jeux Olympiques de Londres, qui a demandé l'asile politique au cours des Jeux Olympiques. Il y a un ministre de l'Information en 2012 qui a profité d'un voyage d'affaires en Allemagne pour demander l'asile. Et puis les membres des équipes de foot qui demandent l'asile à l'occasion de compétitions internationales. Alors, ceux-ci peuvent demander l'asile sans danger, puisqu'ils sont tout de suite pris en main par le pays dans lequel ils sont au moment. Les demandeurs d'asile qui sont renvoyés en Érythrée, par contre, sont arrêtés, torturés. Mais la majorité des candidats à l'exil le font dans des conditions effroyables. il y a une politique, une stratégie qui consiste en Érythrée à tirer pour tuer. C'est-à-dire que toute personne surprise en train d'essayer de franchir la frontière éthiopienne est appliquée. S'ils ont la vie sauve, ils sont emprisonnés. S'ils arrivent à franchir la frontière, la famille restée au pays doit payer une amende de 2500 euros, soit 15 fois le revenu annuel. Souvent même, elles sont emprisonnées, elles sont menacées, enfin, on se venge sur la famille. Puis les routes de l'exil sont dangereuses. Risque de torture par les passeurs. S'ils sont arrêtés dans les pays frontaliers, c'est la même chose. Noyade, risque de mourir de soif. Il y a plusieurs moyens de partir de ce pays. Le moyen le plus sûr pour sortir, puisque c'est un pays pauvre, donc souvent la corruption est importante, là, le moyen le plus sûr pour sortir, c'est de payer 5 000 $ à des officiers de l'armée pour pouvoir passer en voiture officielle au Soudan. On peut, quelques-uns qui ont moins d'argent, mais enfin, ça coûte quand même 3 000 $, partent grâce à des réseaux non gouvernementaux. Mais c'est beaucoup plus risqué. Et ils partent vers l'Éthiopie et le Soudan. Il y avait deux routes principales pour partir. La première, c'était Israël via le Caire. Mais là, il se passe un véritable drame humain. Dans l'indifférence du gouvernement égyptien et ce qui est encore plus grave, de la communauté internationale. Tout se joue dans le Sinaï. C'est une zone de non-droit en Égypte. Des responsables érythréens sont des officiers supérieurs, dont des officiers supérieurs dirigeraient une contrebande d'armes et un trafic d'êtres humains par l'intermédiaire de réseaux criminels au Soudan et dans le Sinaï. Le gouvernement serait complice. Les migrants tombent aux mains de certains bédouins. Ceux-ci kidnappent et torturent leurs otages pendant que la famille en ligne au téléphone est incitée à payer rapidement une rançon. La famille en ligne qui est contactée, ce n'est pas la famille qui est restée en Érythrée. C'est la famille qui fait partie de la diaspora. C'est la famille dont le migrant cherche à rejoindre. Et ces personnes ont des téléphones, les migrants. On téléphone à la famille et on les torture en direct, c'est-à-dire on les électrocute, on leur coupe les doigts, on les brûle, on leur brise les os. Et les femmes, évidemment, sont violées en direct pendant que la famille est au téléphone. Et c'est des rançons de 2000, 3000, 4000 dollars, c'est vrai. Ceux qui s'acquittent de la rançon ne sont pas sauvés pour autant, puisque... ils risquent de mourir de leurs blessures. C'est des gens qui ont été torturés et qui n'ont pas été soignés. On est en plein désert. Donc il y en a beaucoup qui meurent ou sont revendus à d'autres bédouins et le cycle infernal recommence. C'est affreux. Et une autre pratique qui est particulièrement odieuse, car elle profite à des personnes des pays avoisinants. Alors, quand on voit le Sinaï, on voit qu'Israël n'est pas loin. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Syrie. Encore la Syrie, maintenant, ça ne peut plus parce qu'avec le chaos qu'il y a, c'est le trafic d'organes. Les médecins opèrent sur place, ce qui implique des complicités en haut lieu. On laisse le patient mourir quand on lui a prélevé les organes. De 25 000 à 30 000 victimes personnes seraient victimes de cette pratique-là, dont 90% d'Érythréens. Il y a à peu près 10 000 survivants et entre 5 000 et 10 000 morts et disparus. Le but, c'est d'arriver en Israël. L'Égypte a une politique de renvoi automatique vers l'Érythrée, donc ils évitent, mais quelquefois ils y passent quand même. Et entre 2006 et 2012, près de 33 000 Érythréens sont entrés en Israël. Alors, ils sont considérés comme infiltrés, c'est-à-dire ils sont soupçonnés, on les met dans les centres de détention, ils n'ont pas de permis de travailler, ni protection sociale. Ce n'est pas l'apanage d'Israël. Nous, en Europe, on fait un peu la même chose. Et depuis 2012, avec Netanyahou, il y a eu un durcissement de la politique d'accueil. Donc prison, rapatriement. Alors c'est rapatriement vers l'Érythrée et c'est en violation du principe de non-refoulement du droit des réfugiés, qui est du droit international et du droit coutumier. Tout pays enregistré à l'ONU doit l'appliquer. Et beaucoup de pays violent ce droit, avec des conséquences souvent mortelles. Il y a un pays en Afrique qui accueille les migrants africains qui avaient passé un accord avec Israël, c'est l'Ouganda. Mais l'Ouganda ne peut pas accueillir tous les migrants africains. Donc beaucoup finissent, passent des années en centre de détention ou sont rapatriés, donc souvent meurent. Ouais. En raison de ce drame, les candidats à l'exil se sont tournés vers l'Europe, via le Soudan, le Sahara. Donc le Sahara, passeur, risque de mourir de soif. Il y a les trafiquants libyens et souvent en Libye, ils finissaient en centre de détention du temps de Kadhafi. Maintenant, il y a tellement de groupes, de factions qui finissent dans les mains des factions, c'est affreux. S'ils paient, quand ils sont dans les centres de détention, s'ils payaient leur... C'est pas une rançon, mais ils payaient leur libération à peu près 4 500 $. On les amenait au bord de mer et de là, on connaît le reste, on connaît la suite. C'est la traversée de la Méditerranée avec Lampedusa et les drames que l'on connaît. En 2013, il y a eu plus de 3 000 morts. Et depuis 20 ans, il y a eu 20 000 morts et depuis janvier 14, il y a eu plusieurs naufrages. Ces deux routes sont vraiment très dangereuses. Les migrants ont regardé du côté de Yémen, mais le Yémen, c'est pareil, a un nouvel accord avec l'Érythrée, il les renvoie vers leur pays. L'Australie était également un but, mais outre le coût, 10 000 $, ce pays aussi durcit sa législation. Et l'arrivée en Europe ne les protège guère plus. Le Royaume-Uni, la Suède et l'Ukraine ont procédé à des renvois, tout comme en violation donc du droit du principe de non-refoulement. Et pour finir, c'est ce que je disais avant pour les candidats à la migration, c'est que l'État est dans tel état, le drame qui se joue en Érythrée n'empêche pas la moyenne de 4 000 candidats à l'exil mensuel. Pour que ces êtres risquent malgré tous ces périls, ceci en dit long sur les souffrances subies dans leur pays. Alors, c'est un article qui était sur la chronique de ce mois-ci. Je pense qu'on va peut-être avoir des actions à faire sur l'Érythrée. Enfin, c'est un petit pays dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai que 6 millions d'habitants, ça ne compte pas beaucoup pour beaucoup de gens, mais c'est un drame humain qui se passe sous nos yeux, même si c'est un peu loin. Voilà ce que je voulais dire sur l'Érythrée.
Marie-Dominique Blanc, merci. Et puis on continue sur...
C'est vrai qu'on ne vous dit pas trop de bonnes nouvelles dans cette émission, mais bon, les faits sont là, quoi. Hein, ça nous touche. Hein. Voilà, donc... un autre cas dont on a beaucoup parlé... c'est le cas de cette jeune femme, Meriam Yehia Ibrahim, du Soudan. Alors cette femme, elle est enceinte de 8 mois. Elle a été élevée dans la foi chrétienne orthodoxe, la religion de sa mère, parce que son père, qui est musulman, était absent pendant son enfance. Elle a été arrêtée et accusée d'adultère en août 2013. Mais tenez-vous bien, elle a été accusée d'adultère par un membre de sa famille ayant affirmé qu'elle commettait l'adultère puisque son mariage avec un chrétien du Soudan Sud n'était pas valide. Voilà, en fait, elle commettait l'adultère avec son mari, quoi. Mmh. Et en février 2014, le tribunal l'a également inculpée d'apostasie.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'apostasie, c'est quand on change de religion. Lorsque Meriam a déclaré être chrétienne et non musulmane. Donc, elle a été coupable de 2 chefs d'inculpation. Elle a été déclarée coupable le 11 mai dernier. Donc, vous voyez, c'est pas vieux. On lui a laissé 3 jours pour renier sa foi. Elle a refusé de renier cette foi. Donc, elle a été condamnée à mort pour apostasie, c'est-à-dire changement de religion, et à 100 coups de fouet pour adultère. Adultère avec son mari, entre guillemets. Donc, ça a tellement révolté la conscience que quand Amnesty a lancé une action pour elle, en quelques jours, on a recueilli 620 000 signatures. Donc, 620 000 personnes ont adressé aux autorités un appel en faveur de sa libération et puis dans les conditions aussi de détention qui sont terribles, hein, puisqu'elle est enchaînée en permanence. Donc Amnesty demande de garantir sa sécurité et puis de la libérer sans délai et sans condition parce qu'elle n'a commis aucun crime et elle n'a rien à faire en prison. Donc vous pouvez encore vous joindre aux 620 000 personnes qui ont demandé sa libération en allant sur le site amnesty.fr. Vous verrez à Action signer, vous pourrez signer cette pétition pour ce cas qui vraiment heurte la conscience humaine de chacun. Voilà, donc on va terminer par l'interview de Jean-François Dubost, qui est chargé de mission réfugiés et migrants à Amnesty International France. Alors ça rejoint un peu ce que nous disait Marie-Dominique sur l'Érythrée, hein. Quand des gens essayent de venir en Europe, c'est extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Et quand ils arrivent, ils sont souvent considérés par les pays comme des délinquants, entre guillemets, hein, puisqu'on les enferme, etc. Et pourtant, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Hein. Vous avez vu la terrible histoire de l'Érythrée. Donc, il y a un site qui est dédié à notre campagne SOS Europe qui s'appelle Amnesty Stories. Vous tapez Amnesty Stories et vous verrez des informations là sur justement cette campagne sur les migrants, hein, qui sont des êtres humains et quand ils arrivent, ben c'est bien sûr on voudrait qu'ils puissent rester chez eux, chacun voudrait rester chez soi. Hein. On quitte pas tout comme ça par plaisir, mais quand ils arrivent, ben c'est des êtres humains et on se doit de les accueillir aussi dignement. Voilà, donc allez sur Amnesty Stories. Et pour l'instant, on va écouter donc Jean-François Dubost, qui est le chargé de mission réfugiés. Merci.
La Bulgarie, c'est un peu l'exemple typique de la faillite de la politique européenne en matière de contrôle de ses propres frontières, parce qu'à force de mettre des obstacles et de ne penser les politiques migratoires que sous l'angle d'une répression, d'un empêchement d'arriver des réfugiés et des migrants, de placer des entraves ou des obstacles, et parfois violents comme en Grèce, avec des atteintes aux personnes ou à leurs biens, eh bien finalement on ne fait que déporter le problème à un autre endroit. Et on retrouve exactement les mêmes problèmes en Bulgarie que nous les avons en Grèce, à savoir mauvais traitement, mauvaise prise en compte de la situation des personnes. Ce sont des réfugiés, mais on les traite comme des personnes indésirables en situation irrégulière qui doivent être principalement renvoyées dans leur pays. À Amnesty International, nous prônons et nous exigeons de l'Union européenne désormais de mettre au centre de ces politiques migratoires, de ces accords conclus avec des États pour contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, le respect des droits humains, des droits des personnes migrantes et réfugiées. Il ne s'agit pas de discuter le fait que les États ont ou pas la possibilité de contrôler leurs frontières, il s'agit de savoir comment ils le font. Et aujourd'hui, la réponse à ce comment n'est pas satisfaisante, puisque c'est à tout prix, on contrôle et on renvoie ou on empêche les personnes d'arriver à nos frontières, alors qu'à Amnesty International, nous préconisons, nous demandons, nous exigeons même que ce soit le prisme du respect des droits des personnes qui sont à nos frontières, qui doit primer. Il y a urgence et les drames de Lampedusa, les deux naufrages dramatiques et énormes qui ont eu lieu à la fin de l'année 2013, montrent qu'il y a urgence. Les arrivées de Syriens du fait du conflit en Syrie, en Grèce, en Bulgarie, montrent aussi qu'il y a urgence. Les décisions doivent être prises maintenant.
Voilà. Voilà la position d'Amnesty. Et ben on va finir par un peu de musique. Hein. Marie-Dominique a choisi Yonatos. Voilà.
Et on se quitte sur cette musique. Et on donne rendez-vous, bien sûr, aux auditeurs pour le 4 juin.
Oui.
À la médiathèque.
4 juin
de
à la
Digne.
Médiathèque. Et puis.
Et le 21 juin.
Le 21 juin, boulevard Gassendi, pour venir signer nos pétitions.
Stop torture.
Et puis vous informer sur Amnesty, si vous voulez. Nous serons là pour répondre à vos questions.
Et on rappelle que cette émission sera en ligne sur le site de Fréquence Mistral Digne, dans l'émission donc pour la dignité, qui se trouve en bas de la page d'accueil, mais on va peut-être la remonter d'un cran pour que les gens la voient mieux.
Et une petite info aussi,
oui.
Nos amis là, de la Ligue des droits de l'homme de Digne et de la Vallée, mardi 27
oui.
mai à 20h30, il y a un film Rwanda 1994, le génocide des Tutsis. Au nom du Père, de tous, du ciel. Donc c'est une soirée avec un invité, à partir de 18h30, il y a une conférence de Jean-Claude Nkoubito, qui est rescapé Tutsi, journaliste, correspondant de la BBC à Bruxelles, et qui témoignera et animera la soirée. Donc ensuite, à 20h30, le film et puis un débat. Voilà.
Merci Régis Coulanges pour cette fidélité et parler de toutes vos actions d'Amnesty International. Et puis merci à Marie-Dominique Blanc, présidente d'Amnesty du groupe de Digne, d'être venue parler de ce petit pays érythréen dont on ne connaissait pas forcément l'existence. Merci, au revoir.
Au revoir.
Στο des gardiens. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.